Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Encore un instant, c'est le titre de la pièce de théâtre qui réunit à partir de ce soir Michel Larocque et François Berléand, à suivre leurs confidences au micro de Sophie Orange. Le quatrième roman sélectionné pour le Grand Prix RTL Lire 2019 s'appelle Nino dans la nuit et il a la particularité d'être équipé par un couple, Capucine et Simon Johannin. Bernard Lehu les a rencontrés. Nous jetterons un œil à nos programmes télévisés du soir avec Isabelle Morini-Bosque. Et puis, le festival classique La Folle Journée démarre demain à Nantes autour du thème Les Carnets de Voyage. Charlotte Latour nous proposera un avant-goût des festivités.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
On commence donc par aller au théâtre. Retrouver Michel Larocque et François Berléand. Ils jouent à partir de ce soir. Encore un instant, c'est au théâtre Édouard VII.
Et cela fait 10 ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés ensemble au théâtre. Ils sont donc ravis, deux acteurs au parcours très différent, mais très heureux d'être réunis.
François, humainement, c'est quand même très important, et quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Et effectivement, c'est en plus un magnifique comédien et un partenaire de rêve, parce que très à l'écoute et très... Ça n'est que du plaisir et un gros plaisir en plus.
Un plaisir partagé, François Berléand.
Oui, oui. Très attention, parce que là, si tu dis pas du tout...
Parce que vous savez ce qu'il y a de bien aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a très, très mauvais esprit. Et ça, c'est formidable parce
qu'on a de l'humour.
On a de l'humour, mais on a un humour méchant. Et ça, et c'est ainsi quand même.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est pour ça.
Et c'est pour ça qu'on se rend aussi bien. Donc on dit du mal de nos confrères, sans le penser vraiment, mais ça nous fait du bien. On vit ensemble tout de suite la même chose, quoi. Et c'est très agréable. Ça va très, très vite. Et comme on a le même rythme de jeu.
Voilà, et de penser aussi. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est ça aide beaucoup. Ça, c'est ça aussi qui est très agréable. Ouais. C'est qu'on pense au même rythme et à la même vitesse. Ouais. Donc, du coup, on voit des choses ensemble. Voilà. On est complices grâce à ça.
Alors, cette pièce, encore un instant, est écrite par Fabrice Roger Lacan et elle est mise en scène par l'inévitable Bernard Murat.
Et c'est l'histoire d'un couple, Suzanne et Julien. Elle est comédienne, lui est réalisateur et metteur en scène. Ils travaillent ensemble depuis toujours. Il l'a poussée, accompagnée comme un pygmalion. Sauf que c'est fini, puisque Julien est mort. Mais toujours sur scène. Des jeux de lumière le rendent invisible des deux autres acteurs. Le voisin de palier, un jeune homme ami du fils du couple, totalement séduit par Suzanne. Et un auteur qui vient lui proposer une pièce, lui aussi complètement sous le charme. Situation donc cocasse, puisque le mari mort met sur scène, les observe et commente. Et Suzanne est pleine de doutes. Doit-elle, peut-elle jouer maintenant que son mari n'est plus là?
Alors, les deux acteurs sont des habitués du cinéma et du théâtre. Ils préfèrent l'un ou l'autre?
Alors, évidemment, deux métiers totalement différents. Avec au théâtre, pour les deux, la répétition des représentations qui exige un engagement total.
On réinvente tous les jours. Mais enfin, des gens qui n'aimeraient pas leur métier, qui feraient ça en imitant ce qu'ils ont fait la veille. Nous, on adore notre métier, donc je pense que voilà, on va réinventer, on va être différent tous les jours.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller tous les jours au même endroit, à la
ça,
même
c'est
heure.
Autre chose. C'est géographique.
C'est ça que vous aimez bien, vous, François Berléand.
T'aimes bien?
Moi, j'aime bien. Et parce qu'il y a justement des fois, on n'a pas envie. Et dès qu'on est là, dès qu'on est là, c'est formidable. On arrive dans la loge, on a envie de dormir à 9h moins 5, tout à coup, paf, en scène dans 5 minutes, et là, on a qu'une envie, c'est d'aller jouer. Le spectacle est différent chaque jour, parce que le public aussi décide d'une salle à une autre. Il joue avec nous.
Il y a des publics qui ne rient pas là, qui rient là,
on les entend écouter. Et ça dépend de quoi?
Exactement, c'est exact. Soit vous jouez une pièce où il n'y a pas de rire, et ce sera la qualité du silence qui fera que. Voilà, et tout à coup, la qualité du silence fait que vous vous concentrez de façon énorme. Et puis, tout à coup, vous allez jouer une pièce drôle. Le public va pas rire à une réplique alors que vous attendez à ce que le public rit. Et hop, ça va vous changer la façon
d'enchaîner,
etc. Ouais. Donc, c'est vraiment le public qui décide.
Et très souvent, quand il n'y a pas eu un rire à une réplique, on croit que c'est à cause de cette réplique et pas du tout, ça vient de quelque chose avant. Qu'on n'a pas fait de la même façon. Voilà. C'est très, 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 très minutieux.
C'est passionnant, ce théâtre, vu de l'intérieur par ces deux grands acteurs.
Alors, on l'a compris aussi, Michel Larocque et François Berléand sont donc des amis, des complices, et puis ils partagent autre chose.
La Légion d'honneur. François Berléand, officier, et pour Michel Larocque, c'est tout récent, depuis la promotion du 1er janvier, elle est chevalier.
Beaucoup de fierté et... C'est quelque chose qui me fait évidemment très plaisir.
Qui vous émeut presque, j'ai l'impression.
Parce que je pense à mon grand-père, qui a eu la Croix de guerre, qui a eu la Légion d'honneur en 14, alors qu'il avait 22 ans. Et je me dis que dans la famille Larocque, où il y a eu pas mal de Légions d'honneur, et que donc voilà, je leur fais honneur.
Et vous l'officiez, François Berland.
C'est aussi par le ministère de la Culture. Hein.
Faut que tu changes de voix un peu, parce que tu es officier là.
Ah oui, alors c'est vrai, oui. Écoutez, moi je fais partie d'une famille qui a choisi la France. Mon père a choisi la France, il était émigré, russe. Sa mère était apatride, donc c'est pour vous dire à quel point...
C'est important.
Ouais, c'est vraiment important pour moi de... Et c'est important pour... Mon père est mort depuis longtemps, mais je l'ai fait vraiment par hommage pour mon père qui m'a élevé en tant que Français. Et voilà.
Et je vais vous faire une petite confidence. C'est François Berléand qui va remettre cette décoration à Michel Larocque. Elle l'a appris alors qu'ils étaient en répétition. La cérémonie va se dérouler au théâtre et a priori, on devrait quand même bien rigoler.
Ah ouais.
Encore un instant. C'est donc à partir de ce soir au théâtre Édouard VII avec Michel Larocque et François Berléand. Une pièce sur la séduction, une qualité ou un défaut tient dans la vie et sur scène aussi d'ailleurs.
Quand on est acteur ou actrice, on est dans la séduction. Michel, en aucun cas, est séductrice. C'est pas la même chose.
Il n'y a rien de moins séduisant que quelqu'un qui est séducteur. C'est prendre les autres pour un miroir. C'est ne pas voir les autres. C'est se voir dans les regards de tout le monde. Je n'aime pas ce principe-là.
Michel n'est jamais dans la séduction. Elle est. Voilà, c'est tout.
Oh.
J'aime beaucoup le haut de Michel.
Oh.
Voilà, je vous laisse méditer ça pour la journée.
Mais ça me semble très bien. On a passé un excellent moment avec eux.
On rend la copie demain.
Oui, et exactement. Ça se passe au théâtre Édouard VII. À partir de ce soir, dans un instant, nos audiences télévisées de la veille et puis Bernard Lehu.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À 9h07, nos audiences de la veille avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien écoutez, audience très très éclatée, ça veut dire que quand on se répartit un peu partout, bah, y en a moins sur un point central. Donc Sam sur TF1 est en tête, mais avec 4 200 000 téléspectateurs et 18% du public sur la une. Mm-hmm. Très bon démarrage compte tenu des circonstances sur M6, 3 500 000 téléspectateurs et 15% du public sur la 6.
J'ai suivi vos conseils, j'ai passé un excellent moment. Ils sont incroyables
bien,
cette année, oui.
Voilà. Et alors côté TNT, eh ben, c'est W9 avec le flic de Beverly Hills 2 qui est nettement en tête. 960 000 personnes étaient devant.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez ce matin le quatrième roman sélectionné pour le Grand Prix RTL 2019, Nino dans la nuit, qui a pour particularité d'être écrit par un couple, Capucine et Simon Johanna.
Mais oui, une grande première depuis la création du prix. Capucine a 27 ans, Simon 26. Ils sont artistes tous les deux. Lui avait déjà publié un premier roman, L'été des charognes. Les voici associés pour Nino dans la nuit. Écrire à deux, c'est toujours une alchimie un peu mystérieuse. Alors, comment s'y prennent Madame et Monsieur Joanne?
On n'écrit pas à quatre mains, en fait. C'est Simon qui écrit, et moi, je fais la construction de l'histoire, en fait. Ouais. Moi, je fais vraiment la construction du scénario, les personnages. Et ouais. Simon, il a commencé à faire les premières ébauches, et après, à partir de là, il me faisait lire, et moi, je lui disais, non, ça va pas, il faut aller plus dans ce sens-là.
C'est un jeu de réaction, en fait. Moi, je vais faire des propositions à l'écrit qui vont très vite, en fait, être passées au tamis du regard de Capucine, qui est à la fois la première lectrice et un peu la productrice du projet, on peut appeler ça comme ça, ou la directrice artistique, je sais pas qu'est-ce qui serait cohérent, parce qu'on est un peu en train d'inventer quelque chose dans notre manière de travailler aussi, donc on n'a pas forcément de mots en référence pour définir nos rôles.
Et tout cela se fait toujours dans une parfaite harmonie.
Non, ça dépend des jours.
C'est toujours un peu compliqué parce que c'est forcément sensible. Simon, il met vraiment...
J'ai un gros ego et du coup la critique est assez difficile parfois.
Ouais, et puis c'est vraiment artistique et très sensible. Moi, il y a moins de sensibilité dans ma part. C'est plutôt quelque chose de plus technique, de plus carré. Et lui...
Il va vraiment veiller à la cohérence.
Et c'est pour ça que lui, il a tendance à se perdre parfois et à oublier un peu. Et moi, je le ramène sur le chemin. Et
d'accord. Heureusement qu'elle est là, Capucine. Hein.
Mais oui, que nous racontent Capucine et Simon Johanna dans leur roman?
Alors, Nino dans la nuit a la violence d'un coup de poing et la douceur d'une caresse. On y découvre l'histoire d'amour flamboyante du beau Nino et de la tendre Lallée, deux jeunes tourtereaux à qui la vie ne fait pourtant pas de cadeaux. Ils ferraillent contre la précarité à coups de petits boulots, de combines et d'embrouilles dans une société sans pitié.
En fait, c'est des personnages qui savent pas vraiment, ils comprennent pas grand-chose, ils se posent beaucoup de questions, ils sont tout le temps à se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que c'est juste ce qui nous arrive, comment on peut s'en sortir. Il y a tellement de choses qu'ils comprennent pas, et une des rares choses qu'ils comprennent, c'est que l'amour, c'est la seule chose qui est vraiment importante.
Mais voilà, pour eux, c'est un peu leur patrimoine immatériel, quoi. Ils ont pas d'argent, ils ont pas de travail, ils ont pas de voiture, ils ont presque pas de vêtements et presque pas de quoi manger. Mais en tout cas, oui, leur richesse, elle est immatérielle, et c'est leur relation, et c'est ce qu'ils essayent d'un petit peu pérenniser tout au long de l'histoire.
C'est la seule chose qui leur fait du bien et qui les abîme pas, c'est la seule chose qui est vertueuse.
C'est ce qu'ils ont de vertueux, vraiment, ouais.
Nino dans la nuit est donc un étonnant roman d'amour, bourré de lyrisme, d'humour aussi, la tentative de Nino d'entrer à la Légion étrangère, c'est le début, c'est l'ouverture du livre, relève vraiment du morceau d'anthologie. Mais Nino dans la nuit est également un livre qui tremble de rage, d'indignation contre le sort réservé à toute une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, une coloration sociale à laquelle tient tout particulièrement Capucine.
Peut-être que des gens liront, prendront conscience de cette réalité-là, parce que je pense que c'est une jeunesse qui est très précaire, mais qui est aussi invisible, parce que je pense que c'est des gens, on les voit tous les jours autour de nous, et on ne se rend pas compte à quel point ils galèrent, à quel point c'est dur pour eux d'en être là où ils en sont, de juste garder la tête hors de l'eau. C'est une chance, en fait, d'avoir une voix, c'est une chance d'être, même d'être médiatisé, au final. On essaye d'utiliser la voix qu'on a aujourd'hui pour faire passer des messages qu'on n'entend pas forcément tous les jours, et pour essayer de déculpabiliser, parce que c'est des jeunes qui se sentent aussi très coupables. La société, elle leur fait vraiment peser. Enfin voilà, il y a la valeur travail en France qui est très importante. Dès qu'on rencontre quelqu'un, il nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ces jeunes-là, ils ont soit rien à répondre, ou soit bah ouais, je suis serveur dans chez McDo. Il y a rien de glorieux. Ils ont honte. Et c'était aussi pour montrer que non, enfin vous n'avez pas à avoir honte. C'est la société qui vous met dans cette situation-là qui doit avoir honte. C'est pas vous.
Bernard, faut nous parler aussi du style de ce livre à quatre mains.
Ah bah oui, parce que vous allez découvrir une langue moderne, inventive, percutante, au rythme syncopé, comme les lumières stroboscopiques des fêtes nocturnes dans lesquelles Nino et Lallée fuient leur quotidien de galère. Une écriture qui bouscule, qui fouette, influencée par le cinéma, le rap et le slam.
C'est surtout une envie de faire, enfin de rendre la lecture sensorielle, sensitive, que vraiment il y ait des sensations physiques à la lecture, plus que voilà la satisfaction d'une gourmandise intellectuelle. J'aime bien quand le lecteur a chaud. Quoi. Puis je pense que c'est aussi propre à l'énergie adolescente des personnages, qui est très sauvage d'une certaine manière, quoi. Ils ont un petit côté indomptable. On a essayé un peu de retranscrire les idées de la jeunesse qu'on fréquente et qu'on entend autour de nous, parce qu'on trouve qu'elle est belle et qu'elle est intelligente et qu'elle est drôle et qu'elle est pleine d'esprit sur des choses sur lesquelles on s'y attend pas.
Non, le but c'est vraiment, ouais, on n'est pas là pour tartiner, c'est d'exprimer des idées complexes mais avec des mots simples.
Et aussi parce qu'on pense qu'on peut faire des vrais objets de culture populaire qui sont intelligents et qui soient aussi accessibles au plus grand nombre.
Capucine et Simon Johannin, 53 ans à eux deux, je le rappelle, publient le novateur Nino dans la nuit aux éditions Alia, chronique ultra contemporaine de l'amour et de la précarité, et finaliste donc du Grand Prix RTL, et avec nos amis Lire, RTL Lire 2019.
Ils sont agréables à écouter, vous avez remarqué qu'elle ponctue toujours très bien.
Oui. Voilà,
non, mais ce qui en matière d'écrivain est important, la ponctuation.
Et le couple est non seulement charmant, mais vraiment, vous l'avez entendu, fonctionne très bien, et on n'est pas surpris de cette écriture à quatre mains. Finalement.
La télévision maintenant avec Isabelle Morelli-Bosque. Alors Isabelle, on signale évidemment le match Guingamp-Monaco sur France 2 et sur RTL.
Oui.
Ça n'étonnera personne, vous préférez la fiction de France 3, hein, au-delà des apparences, vous.
Oui, même si j'écoute mes camarades des sports.
Bah, oui, bien sûr.
Oui, je vous le fais pas dire. J'adore les fictions dites populaires parce qu'elles sont vraiment de qualité en ce moment, que ce soit Infidèle récemment sur TF1, Au-delà des apparences ce soir sur la 3, ou Philharmonia demain sur la 2. L'audience de la télé de rattrapage le prouve d'ailleurs, avec un bonus de 600 000 à 1 million de fidèles actuellement. Au-delà des apparences, raconte, je le rappelle, la disparition de Manon, la sœur jumelle d'une vedette de série télé jouée par Hélène Noguera, le jour de leur 40e anniversaire. À la fin du 3e épisode, mardi dernier, le corps de la jeune femme est retrouvé, le suicide constaté, d'où l'éclatement d'une famille unie mais déchirée par les non-dits. La preuve avec ce dialogue entre la survivante et son frère aîné.
Tu rentres quand à Paris ?
J'ai pas envie de rentrer là.
Faudrait bien pourtant.
Pourquoi t'es si pressée que je m'en aille ?
Pour que la vie reprenne son cours.
Parce qu'elle peut pas reprendre avec moi la vie.
Ici la vie se fait sans toi depuis longtemps. Et puis tu sais, tu seras jamais Manon malgré tes talents de comédienne.
Et si au contraire c'était elle qui avait voulu être moi ?
Et toi ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi faut que tu ramènes toujours tout à toi ?
C'est pourtant vrai.
Bonne question.
Mention spéciale à Pascal Demolon, prodigieux en fils alcoolique et malheureux, alcoolique car malheureux. Il se fait enfermer pour s'empêcher de picoler, mais rien n'y fait, il boit et les autres trinquent.
Guillaume, qu'est-ce que tu fabriques ? Et avec mon vin blanc de cuisine en plus. Non mais je suis déçu. Hein.
Ah oui, moi aussi, je suis très déçu. Non, c'est de la piquette. J'aurais pas dû.
Voilà, stressé. C'est une réussite. Alors pourquoi s'aborder ce feuilleton en le passant en deux fois trois épisodes au lieu de trois fois deux, ce qui était une tradition de la télévision. Ça, j'ai pas trop cherché à comprendre, mais c'est dommage.
Alors, on note par ailleurs sur TMC, Télé Monte Carlo, un bon documentaire sur le phénomène. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Oui.
Stéphane Boutzok nous en a longuement parlé hier. On peut également choisir sur M6 le dernier volet de Patron Incognito. Ce soir, la patronne patronne de l'entreprise de location de voitures Rent-A-Car, qui découvre les salariés de son entreprise.
Oui, c'est une femme jamais apprêtée, que l'on maquille là vraiment beaucoup, que l'on perruque, que l'on teint avec un test imparable. On la place dans un café où son mari a ses habitudes. Oui. Et très bonne surprise pour elle, petit A, non seulement elle ne la reconnaît pas, mais petit B, il ne la drague pas non plus.
Ça l'a beaucoup rassuré, parce qu'effectivement, il m'a regardé plusieurs fois, des regards furtifs, et visiblement, je ne l'intéressais pas du tout relooker. Le frein que j'avais au démarrage, je ne voulais pas que mes salariés vivent ça comme de l'espionnage. Pas les piéger. Moi, ce qui était important vraiment, c'était de découvrir les salariés, de comprendre comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'ils accueillaient des nouveaux, notamment parce qu'on est en train de beaucoup recruter et qu'on a de temps en temps du mal à fidéliser les salariés. Donc, je voulais bien comprendre quels étaient les rouages et puis découvrir les pépites. J'ai eu vraiment des rencontres très, très chouettes.
Alors, parmi les pépites, Jamel Adaoui, un agent polyvalent qui sait utiliser les compétences.
Dany, est-ce que je peux te faire faire quelque chose?
Ouais,
ok. Fait. Alors, normalement, tu vas trouver ma tasse juste là. Est-ce que tu peux me faire un café? C'est juste ça, ça te dérange
okay,
pas.
Pas de soucis.
Je suis en manque de café.
Je t'en prépare un.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Ça met un peu trop de temps, j'aime pas trop bien ça. Elle arrive sans café, c'est pas bon.
J'espère qu'il sera bon parce que je connais pas du tout cette machine.
Là, déjà, ça le fera jamais. Ça s'arrêtera jamais de clignoter si tu mets pas d'eau. La dosette, tu l'as mise à l'envers.
Voilà, alors j'ai voulu rencontrer Jamel qui assume tout, notamment le moment où il découvre que la porteuse de café, bah, c'est sa patronne.
J'ai explosé de rire. Bien joué, je me suis bien fait carotte. Parce que pareil, voilà, je suis le client de ce genre d'émission. Et je me dis à chaque fois, non, c'est pas possible. Tu connais ton patron, bah, ça se voit. Bah non, pas forcément en fait. C'est comme quand on regarde un match. Moi aussi, il y a des buts, je les mets quand je suis chez moi. Et pourtant, le dimanche, bah, je tire pas mal de fois à côté. Donc c'est exactement la même chose. Et en plus, ça, nous, le patron, c'est un homme. Donc automatiquement, je regarde pas après ce qu'il y a en dessous.
Et en dessous, surtout si c'est une femme, ça porte les cafés.
Non, là, par contre, vous me faites passer pour quelqu'un de misogyne. À chercher à tout prix à faire quelque chose. Je lui offrirai une cafetière. À aucun moment, j'ai eu peur pour mon poste. Je remercierai jamais assez aussi bien l'émission que surtout mes responsables d'avoir permis de montrer ce que c'était que mon métier et qui j'étais aussi.
Est-ce que vous allez regarder l'émission avec vos copains? Bien sûr, ils vont vous mettre en boîte, faut vous y attendre.
Ah oui, non, mais là, c'est sûr et certain que je vais me faire terminer. Pour vous dire, quand j'ai dit à mon père, j'ai participé à l'émission, explosion de rire. Il m'a dit, ça y est, t'es mort. T'as dû faire le con. Je lui ai raconté juste cette phrase du café. Il m'a dit, écoute, mets-toi au thé. Ça sera mieux pour toi.
Voilà, 21h, M6, ce soir, le dernier volet de cette saison.
Merci Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, la folle journée, ça se passe à Nantes, c'est merveilleux. Et on se retrouve avec Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Place à l'événement classique de l'hiver, le festival incontournable, la folle journée. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
La folle journée a commencé en région et se déroule à Nantes à partir de demain.
Les chiffres sont vertigineux. Plus de 150 000 spectateurs attendus, 300 concerts de 9h30 le matin à 23h. 2000 musiciens, ils envahissent littéralement la cité des congrès et le lieu unique. Vous savez, c'est l'usine de la biscuiterie, l'U réhabilité en espace culturel. Le programme cette année, les carnets de voyage. D'Italie pour commencer avec ce fandango de Luigi Boccherini à retrouver sur l'album officiel de la folle journée. Le disque a lui aussi pour thème les carnets de voyage. C'est un disque du guitariste Emmanuel Rosfelder. Mais oui, quoi de mieux que la guitare pour illustrer le voyage?
Alors c'est la première fois qu'Emmanuel Rosfelder enregistre un album qui ne soit pas un album solo.
Oui, il s'est entouré de compagnons de route prestigieux. Ici avec le quatuor Modigliani et Guilou Buono au castagnette, la grosse difficulté de l'album a été le travail de transcription. Il a fallu adapter les œuvres. Par exemple, Les filles de Cadix de Léo Delibes, réécrites pour guitare, piano et voix, travail acharné pour le musicien.
C'est un track qui me plaît beaucoup. Ça rappelle à quel point la guitare paraît évidente comme ça au premier abord et à quel point elle ne l'est pas forcément sur l'aspect technique, les tonalités, pour pas que ça fasse cheap, pour que ça fasse tout de suite orchestral. Ça, j'aime beaucoup l'aspect orchestral, partir des sons graves, aller dans les sons très aigus, ne pas rester cantonné dans un registre médium comme parfois on l'entend un petit peu trop. Alors voilà, j'ai vraiment j'ai élaboré avec non sans peine et il m'a fallu un peu de temps, faut le reconnaître. Ça a été du sur-mesure.
Dites-moi, voisin, si j'ai bonne mine et si ma
Détour par Cadix, maintenant avec la soprano d'origine portugaise, Raquel Camarinha. Le voyage comme source d'inspiration, bah quel compositeur n'a pas été influencé par un séjour hors de ses frontières ? La Folle Journée propose justement, en plus des concerts, des conférences sur ce thème. Voyage le long de la Loire, Mozart à Paris, Milan et Prague, l'Italie éternelle source d'inspiration des compositeurs romantiques, voilà de quoi éclairer la programmation du festival. Quant aux concerts, ils durent 45 minutes en moyenne, ça permet d'enchaîner facilement les spectacles pour une boulimie de musique dans une ambiance super conviviale. Emmanuel Rosfelder est un habitué de l'événement.
Chaque musicien a à cœur de jouer le maximum pendant ces 45 minutes, de faire quelque chose de très dense. Et puis, évidemment, faire le marché musical, c'est rare d'avoir dans un seul lieu toute cette musique diverse et variée, orchestrale, instrumentale, avec des choses très minimalistes, des choses gigantesquement sonores. Donc les gens se régalent. Oui, il y a une excitation qui est incroyable. C'est comme une fourmilière, vous savez. Toutes les fourmis qui sont sorties en train de faire la queue, puis d'un coup, fouf, les concerts commencent. Il n'y a plus personne d'un coup, puis elle, d'un coup, ça ressort. C'est un contraste saisissant, absolument pas dénué d'émotion, parce que d'un coup, on est vraiment en concert, que ce soit un concert à 9h du matin ou à 22h le soir, on est transporté.
À nouveau, la soprano Raquel Camarinha dans un air de fado déchirant. Sa voix brillante et enlevée dans Léo Delibes se fait obscure et profonde dans cette reprise d'Amalia Rodriguez. Une chanteuse à suivre, cette Camarinha. Emmanuel Rosfelder donnera le programme du disque aux côtés des musiciens dont nous avons parlé, jeudi et samedi soir à Nantes. La force de l'album réside dans sa variété, dans le fait aussi que la guitare n'est jamais trop mise en avant, elle crée plutôt un lien entre chacun des autres instruments. Et puis, il nous emmène vraiment loin dans ces contrées ensoleillées et ces temps-ci, ça fait plutôt du bien. Et puis, je résiste pas, alors là, c'est un petit bonus, à vous faire part du soin que le guitariste apporte à ses mains. Il y passe, écoutez bien, une heure par jour. Écoutez à quel point ça influe sur son jeu.
J'ai des vernis, j'ai des colles, j'ai des poudres acryliques. Enfin, je mets des choses selon les projets, selon ce qui m'attend. C'est avec orchestre. Là, il va y avoir une vingtaine de concerts en un mois. Là, c'est quand même gigantesque. Donc, là, il faut que les ongles soient très résistants. Et puis, c'est l'hiver. Alors, l'ongle, il se rétracte un petit peu par le froid. Donc, il est un petit peu plus bombé. Le son est un petit peu plus rond. Parce que le froid, ça empêche l'ongle de pousser, alors que l'été pousse beaucoup plus vite. Donc, faut vraiment en prendre grand soin, là, pendant cette période.
Un dernier petit voyage par le Brésil avec Heitor Villa-Lobos. Voilà, vous savez comment entretenir vos ongles pour cet hiver.
Ah oui.
Ben oui. Carnet de voyage d'Emmanuel Rosfelder est paru chez Mirare. Excellent album. Rendez-vous sinon à la 25e Folle Journée, histoire de goûter à la profusion de propositions musicales. Chant corse demain, jeudi et samedi. Polyphonie portugaise et espagnole vendredi après-midi. Un américain à Paris par un quatuor et un accordéon vendredi soir, ou alors des percussions japonaises. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak samedi soir. Bref, vous l'avez compris, la programmation est hétéroclite et très soignée comme chaque année. Les prix restent
comme
très accessibles, exactement, puisque les billets vont jusqu'à 30 euros.
Voilà. Avec des petits lus, alors. Et surtout, Guilou Boineau aux castagnettes.
Exactement.
Comme c'est pas
talent.
Très souvent qu'on met en avant les joueurs de castagnettes, je pense qu'il fallait répéter au moins deux fois, allez, trois fois, le nom de Guilou Boineau. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Merci à vous de nous être fidèles. Et on retrouve maintenant avec grand plaisir Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour, qui s'est une nouvelle fois régalé en vous écoutant. Je voudrais vraiment faire un big up à Cyprien Sini là, pour l'histoire du ministre de l'écologie. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Ah, on a passé un petit moment qui était drôle.
C'était juste la première phrase pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Cyprien fait un boulot extraordinaire chaque matin. Mais écoutez ce qu'il a déniché.
Car François de Rugy, il a quand même pas mal évolué sur le nucléaire hier.
Il nous a quand même expliqué hier que le nucléaire, c'était l'avenir.
Le nucléaire, qui est une filière industrielle importante pour la France, pour les 10 ans qui viennent, le nucléaire joue un rôle important. Il ne s'agit pas, moi je tiens à le dire très clairement, d'une stratégie de sortie du nucléaire. Le nucléaire a sa place.
Oui, formidable, le nucléaire, toute sa place, filière importante, rôle important, etc. Mais François de Rugy, c'est pas lui qui en 99, Didier.
Ce qui compte, c'est qu'il y ait une mobilisation pour montrer que la population française est hostile à la poursuite du programme nucléaire en France.
C'est énorme.
C'est oui, c'est énorme, mais ça a duré 3 minutes en plus. Donc
oui.
On avait un festival d'aller-retour.
Ah ben, je n'ai pas remis les 3 minutes, parce j'entends que bien. Remarquez, ça pourrait être un concept où j'arrive le matin à 9h30 et je rediffuse 1h30 de la matinale et personne ne s'en apercevrait.
Mais je si personne ne s'en aperçoit, c'est inquiétant.
Je vous souhaite une bonne matinée.
Bonne émission, moi
vive
je vous
la
écoute.
France.